Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. D'ailleurs, excusez ma voix, elle est un peu rauque parce que j'ai eu la brillante idée de crier dans un match de soccer, donc ce qui explique pourquoi j'ai la voix un peu rauque. Alors, désolé, je dois vous interrompre. Nouvelle de dernière minute, Fernando Alonso vient de recevoir une pénalité de 10 secondes pour... Et je la prends live, c'est live.
Pas 5, 10.
10, 10. Oh mon Dieu, hey, quel début d'épisode. Donc Fernando Alonso vient de perdre sa troisième place. Donc, wow!
J'étais tout fier d'annoncer sur le groupe que Fernando Alonso avait son 100e podium. L'ensemble des médias parlent de ça, puis là, ben, il était jinx.
Ouais. Et d'ailleurs, celui que vous avez entendu, ben, c'est Julien Légaric-Turcotte, cofondateur du groupe Facebook La Monoplace. Salut Julien.
Salut, avant que tu me demandes si ça va bien, je vais te dire tout de suite que la réponse est non, finalement. Puis, je vais avoir beaucoup de gestion à faire, visiblement.
Ouais, écoute, j'étais écrit aussi. That won't probably. Ça va mal vieillir sur le post que tu as publié sur le 100e podium de Fernando Alonso.
Il y a 3 minutes.
Oui, imagine. Et Marc-André Fortin est avec nous. Salut Marc-André.
Salut Abdou, salut Julien.
Bonjour Marc-André.
Écoutez, on enregistre cet épisode quelques minutes après le champagne du Grand Prix. Ce qui veut dire, je vous donne tout de suite les résultats qui se montrent à l'écran. Sergio Perez a remporté le Grand Prix devant Max Verstappen. George Russell hérite du podium avec Fernando Alonso qui chute au 4e rang. Lewis Hamilton termine 5e, Carlos Sainz 6e, Charles Leclerc 7e, Esteban 8e, Ocon 8e, Pierre Gasly 9e et Kevin Magnussen complète le top 10 avec cette 10e place et on a perdu Alex Albon et Lance Stroll. Alors, je vais devoir vous demander à chaud votre réaction face à cette pénalité de Fernando Alonso qui vient de perdre son 100e podium en Formule 1. Je vais commencer avec Julien.
C'est surprenant. En même temps, ça ne l'est pas tant que ça. On a vu depuis le début de la saison 2023 à quel point la FIA semble avoir une application extrêmement rigide de la réglementation. On pense notamment à Esteban Ocon qui a accumulé les pénalités là, comme Max Verstappen a accumulé les victoires l'an dernier. Donc ça a été ça s'inscrit un peu là dans leur façon d'être qui finalement là ne laisse aucune chance aux pilotes hein, parce qu'on a vu en premier lieu Fernando Alonso qui avait une pénalité de 5 secondes au départ, lui qui aurait été un petit peu trop à la gauche là, de l'endroit qui est normalement attitré à son véhicule pour commencer. Finalement, puis là, j'ai hâte d'avoir un peu plus de détails, la pénalité de 5 secondes n'aurait pas été réalisée dans les règles. Je présume que c'est Aston Martin qui aurait touché au véhicule d'Alonso pendant les 5 secondes où il devait écouler sa pénalité. Donc finalement, on n'a pas droit à l'erreur en Formule 1. Puis Fernando Alonso en est une autre victime cette année.
Et voilà, donc la FIA ne niaise pas avec la POC, comme on peut le voir. Écoute, c'est dommage parce qu'Alonso faisait une superbe course. Vraiment... c'est dommage, mais je pense qu'au moins on peut dire que la FIA est constante dans l'application de ses règles quand même. Marc-André?
De la constance, mais surtout une crampe au cerveau de Aston Martin, sachant que Ocon avait eu une pénalité semblable lors du dernier Grand Prix, lors du premier Grand Prix. Il me semble que tu tentes justement de bien faire les choses puis de pas attaquer la voiture trop vite. En même temps, dans le feu de l'action, les mécaniciens, ça doit aller très vite, donc on peut pas leur en vouloir tant que ça. Mais effectivement, il faut absolument, là, je pense que toutes les équipes sont averties, ne pas toucher à la voiture lors d'un stop and go. Il faut absolument être sûr d'être après les 5 secondes avant de d'aller vers l'action. Donc, je pense que c'est aux équipes maintenant de l'apprendre, mais c'est quand même étonnant qu'une pénalité comme ça survienne deux Grands Prix de suite, alors que Ocon a été très touché là, par cette pénalité lors du dernier Grand Prix. Là.
Ouais, ça, comme tu l'as dit, c'est vraiment une crampe au cerveau de la part d'Aston Martin. Et vraiment, moi, je pensais que l'ingénieur de piste de George Russell dire peut-être que Alonso n'a pas bien servi sa pénalité. Moi, je pensais, est-ce qu'il a bel et bien servi? Parce que ça s'est produit pendant la voiture de sécurité. Donc, il n'y a pas eu d'image, ça, si je ne me trompe pas.
On l'a vu, mais très rapidement.
Ouais.
Ça mais si la retransmission a raté ça quand même un peu. Là.
Ouais. Oh non, c'était quand même assez bizarre, mais en même temps, chapeau à la FIA d'être constant au moins là-dessus. Ah bon, ok, je pense que je vais éteindre la télé, Patrice, c'est vrai, et là, fuck sake. c'est une vraie bulle au cerveau d'Aston Martin d'avoir fait ça parce que, on l'a vu avec Esteban Ocon. Il y a littéralement deux semaines, puis vraiment, c'était absolument terrible. C'est absolument terrible de faire la même erreur le Grand Prix suivant. Et bon, ça n'empêche rien que c'est quand même un bon résultat dans les circonstances pour Aston Martin, mais au moins, ils vont apprendre de leurs erreurs. Bref, On va parler tout de suite de nos des performances du jour. Donc, Julien, performance du jour contre performance et moment cocasse.
Performance du jour, définitivement, Max Verstappen. Ouais. Partir de la 15e position et finir deuxième sur un circuit comme Jeddah, c'est assez exceptionnel. On compare souvent Jeddah à une version de Monaco qui est plus rapide, voire plus dangereuse. Ça démontre à quel point les Red Bull de cette année sont absolument imbattable. On parle de deux véhicules qui sont sur une autre planète. Mm-hmm. Puis Max Verstappen, vraiment, aura eu une course exceptionnelle. J'enlève rien là, à Sergio Perez, qui, si je me rappelle bien, a sa première victoire en Formule 1 lorsqu'il commence de la pole position. Ça demeure à valider. Mais tout de même, magnifique performance là, de Max Verstappen. Rien d'autre à dire par rapport à ça. Sinon, contre-performance, je la donne à McLaren. Ça a été vraiment difficile de leur côté. Donc, en début de course, Oscar Piastri, qui a un contact avec une autre voiture, perd une partie de son aileron avant. Malheureusement pour son coéquipier, Lando Norris, qui roule sur la partie de fibre de carbone là, qui s'est détachée du véhicule d'Oscar Piastri, ça a mené à une crevaison pour Lando Norris, qui finalement a dû rentrer dans les puits de façon prématurée. J'ai vraiment constaté à quel point la McLaren n'avait aucune vitesse, surtout en ligne droite. Lorsqu'on a vu, par exemple, Lando Norris tenter de dépasser Logan Sargeant sur une ligne droite, on parle d'un drag race que Williams a remporté face à McLaren. C'est inacceptable pour une écurie du genre. Donc, ma contre-performance leur revient à eux. Puis, moment cocasse, pour l'instant, je suis sans inspiration. Peut-être certain, un petit événement que j'ai vu dans la conversation où lorsque Lance Stroll, par exemple, a dû abandonner la course, déjà on lisait non seulement là, dans certaines conversations, mais également un peu sur Twitter, malheureusement, des comparatifs qui se faisaient entre cet événement-là puis le crash de Giancarlo Fisichella à Singapour 2008, là, qui a été Piquet. Libéré. Excuse-moi?
Nelson Piquet.
Nelson Piquet, excuse-moi. Donc, de Nelson Piquet. alors, ça a été... Déjà les casques d'aluminium qui recommencent à être apposés sur plusieurs têtes. C'était assez cocasse, donc c'est ce qui fait le tour de mon côté.
Ouais. Moi, je dois dire aussi... Est-ce que... Moi, je vais donner tout de suite ma contre-performance. L'hymne national.
Oui, l'hymne national qui était...
Oh mon Dieu, oui.
Assez spécial, merci.
Oh mon Dieu. Ah, oh, c'était...
C'est comme si Abdou chantait aujourd'hui.
pas aujourd'hui, à tous les jours.
Ah, OK.
À tous les jours.
Je te laissais le bénéfice du doute avec ta voix.
Ouais, déjà là, avec ma voix, au moins, ça s'apaise, mais c'est à tous les... Ce serait plus niveau tous les jours, mais ouais, c'était absolument terrible à entendre. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir écouté un band d'école secondaire, même pas près, dont c'était la première fois qu'ils faisaient un band en direct.
Donc, un peu stressé, un peu...
Non, c'était absolument horrible à entendre. Marc-André, toi, ta performance contre performance.
Ben écoute, je pense qu'on peut pas aller dans une autre direction que Max Verstappen, qui a offert encore une fois, qui a montré son talent malgré sa voiture qui survole la piste. Léger problème peut-être de transmission qui lui a empêché d'aller chercher Perez, mais en même temps, je pense que Perez méritait grandement cette victoire après avoir été chercher sa pole position devant Alonso. Tout s'est bien terminé quand même pour Red Bull, avec une première et une deuxième position dans l'ordre de Perez et Verstappen qui est allé rechercher des positions. En plus, Max est devant au championnat, donc pour lui, je pense que le point du tour le plus rapide était très important. Il l'a mentionné à son écurie à la radio. C'était quasi, c'était très important d'aller chercher ce point-là, puis il l'a fait. Fait que ça lui donne encore ce petit point d'avance qui est très important. On l'a compris à la fin d'une saison. Donc, à voir lors de la prochaine course. Mais Perez a fait vraiment une excellente course aussi. Fait que je pense que Red Bull peut se laver les mains aujourd'hui. Le travail a été accompli. Puis ma contre-performance, j'irai avec Aston Martin, la pénalité d'Alonso. Il y avait un podium à la merci pour eux. Ils font une erreur qui est importante, qui aurait pu être évitée, qui aurait pu offrir le 100e podium d'Alonso. Je pense que c'est certain que c'est une erreur qui peut être évitable. Puis j'espère qu'ils vont avoir compris pour le futur, parce qu'il y a des pénalité, stop and go, on va l'avoir tout au long de la saison. Donc, ça va être important de bien comprendre ça. Malheureusement, Lance Stroll qui a dû abandonner rapidement après un excellent départ, un très beau dépassement sur Carlos Sainz. Il semblait vraiment très à l'aise sur la piste et avec sa voiture. Donc, c'est certain que je trouve ça dommage pour lui. Il aurait pu avoir un très bon résultat dans cette question.
Ouais, pendant ce temps, moi, je lis sur Twitter, il y en a beaucoup qui s'offusquent de la FIA d'avoir vraiment, vraiment pris leur temps. Et d'ailleurs, je suis même surpris que la décision ait été prise maintenant qu'Alonso est maintenant est complètement mouillé, le champagne ayant été saupoudré.
C'est quoi, c'est 30 tours après après l'événement que la décision a été prise?
Ouais.
Ouais.
Ça fait.
C'est quelque chose qui est vérifiable assez rapidement, du moins, je crois, là.
Ouais.
Dans le sens que.
Ça pourrait s'expliquer par le fait que la FIA n'avait pas remarqué, puis qu'une autre écurie a décroché le téléphone pour dire. Bonjour, est-ce possible de vérifier l'exécution de la pénalité d'Alonso?
D'ailleurs, je viens de trouver, c'est le mécanicien arrière, le jack arrière, qui a touché à la voiture en premier lors du 5 secondes.
Oh mon Dieu.
Ouais, donc.
C'est pratiquement sans incidence, on s'entend.
Ouais.
C'est pas une roue qui a été changée, là.
C'est pas les roues, c'est vraiment lorsqu'ils ont.
Lorsqu'ils l'ont levé,
là, que à l'intérieur des 5 secondes. Mais, ouais, c'est.
En plus, qu'Alonso avait été avantagé en plus de faire sa pénalité lors d'une voiture de sécurité. À savoir si ça devrait être accepté aussi. Ça, c'est une autre question complètement. Mais, Il a été chanceux quand même de pouvoir faire ça sur une voiture de sécurité. Fait que tout vraiment a été gâché par un simple jack.
Ouais. Mais vraiment, je trouve que un peu la FIA a peut-être un peu a été lente dans la décision. je blâme personne autre que Aston Martin pour la pénalité. Mais la FIA a peut-être un peu trop été tardive dans la décision.
Et est-ce possible que la FIA a été mise au courant de cette situation parce que Fernando Alonso était à 5,1 secondes de George Russell, donc environ un dixième là, devant George Russell, ce qui lui accordait le podium. Je veux pas rentrer dans les théories, là, je ne veux pas accuser personne, mais. Mm-hmm. On dirait que je doute de l'écurie qui aurait pu aviser la FIA de cette situation-là.
Ouais, c'est possible aussi, mais j'ai hâte de voir. Pendant qu'on va parler de Red Bull, en attendant, moi, je vais aller chercher les documents de la FIA sur leur site. Mais Perez, Verstappen, un doublé au final. Mais Verstappen a fait une course superbe. Perez a été dans son élément, comme Marc-André l'a dit. On va commencer avec Marc-André, tiens.
Exactement, c'est une course sans faute pour les deux. Léger souci du côté de Perez, peut-être du côté de ses freins, mais ça ne l'a pas dérangé tant que ça non plus. C'est un problème qu'on va devoir surveiller. En début de course aussi, certains ont relevé les mécanos qui surveillaient l'arrière de la voiture de Perez. Finalement, ça n'a pas semblé l'importuner pour autant. Donc, c'est certain que la fiabilité est quelque chose d'important. Puis, tu sais, George Russell l'a dit en début d'année, il a l'impression que Red Bull va gagner toutes les courses. Puis, c'est pas pour rien, cette voiture-là est puissante sur tous les plans. La vitesse en ligne droite, dans les virages lents, dans les virages rapides, donc dans toutes les sortes de pistes, on a l'impression qu'ils vont avoir un avantage sur les autres voitures en ce moment. Est-ce que là, avec les caps salariales et leur rétrécissement à cause de la pénalité qu'ils ont dû avoir pour avoir dépassé le cap salarial, est-ce que ça va faire une différence à long terme? Ça, c'est une question qu'on va pouvoir se répondre plus tard. Mais actuellement, cette voiture-là, sur tous les plans, est en avant de tout le monde. Ça va être très intriguant, je trouve, en Australie également. Selon moi, c'est un peu le circuit baromètre où on va pouvoir apercevoir un peu plus les différences entre les écuries. Est-ce que Mercedes aussi va être en avant de Ferrari à Melbourne? Ça va être une question intéressante à surveiller. Mais c'est certain qu'ils survolent la piste actuellement, ouais. C'est les taureaux rouges. Puis je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter avant un petit bout.
Julien?
Ce qui m'inquiète, c'est que Red Bull n'a même pas l'air d'aller à pleine capacité. On a vu pendant la course, environ 10 tours de la fin, Sergio Perez qui demandait à son écurie s'il pouvait aller plus vite.
Ouais.
Donc, au final, c'est pratiquement comme si Red Bull, pour reprendre certaines accusations envers Mercedes par le passé, sandbag volontairement son véhicule pendant la course. Parce qu'on s'entend que de créer une distance aussi considérable entre les véhicules, ça peut pas nécessairement être bon pour Red Bull. L'écurie qui termine premier veut toujours donner l'impression que l'autre écurie, l'écurie qui est la plus proche d'elle, a une certaine chance de gagner. Donc, finalement, ce qu'on constate de Red Bull à l'heure actuelle, c'est probablement même pas l'état réel du véhicule puis ses performances réelles. Donc, à partir du moment où Red Bull veut une pole position, à partir du moment où Red Bull veut la victoire, on a l'impression qu'ils ont juste à ouvrir une switch puis le tour est joué. Je veux dire, de la 15e position à la 2e position pour Max Verstappen à Jeddah, c'est pas à Silverstone, c'est pas à Interlagos où là il y a vraiment plusieurs espaces de dépassement qui peuvent être effectués un peu plus facilement là, c'est à Jeddah. Puis ça s'est fait sans problème. C'est fascinant. Donc rendu là, je me dis que Red Bull, à moins d'accumuler des problématiques majeures, ça va être très facile pour eux là, de remporter et le championnat des constructeurs et le championnat des pilotes. Puis, il reste à savoir combien de victoires seront signées Red Bull cette année en 2023.
Ouais, effectivement. Ouais. J'ai dit à la blague 20, mais j'ai peur qu'on en arrive là hein, à un moment donné. Mais ouais,
c'est probablement ça qui va se produire. Là, je veux dire, avec une problématique, de transmission qui a été découverte la veille, Max Verstappen est parti 15e et a fini 2e.
Ouais.
Puis même durant la course, il mentionnait qu'il y avait possiblement un enjeu avec sa monoplace. Finalement, ça ne lui a jamais causé d'ennui, mis à part peut-être devant Checo Pérez qui conduit à peu près la même voiture. Bon, rendu-le. Les carottes sont cuites pour 2023.
Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je rendu là. Si on parle de carottes cuites, là, ça veut dire que Red Bull a créé un monstre. Un monstre, vraiment.
Tout
là.
À fait.
Presque au même niveau que Mercedes en 2020 ou bien même la Ferrari en 2004 aussi. Donc, tu sais, le fait que... Et parlons
Red Bull 2013.
Oui, aussi Red Bull 2013 aussi. George Russell, la pénalité à Fernando Alonso, elle est pas mal dure. Ils méritent leur podium. Bon, écoute, c'est pas beau de dire ça, mais tu sais, ce serait plus à Aston Martin.
Dire... Gentleman comme il est, ouais, ça.
Ouais, donc, non, écoute, c'est pas beau que. C'est pas beau d'être gentleman, mais écoute, c'est ça la Formule 1. Mais oui, la FIA est un peu. C'est un peu rough. Bon.
En même temps, on aura souvent reproché de manquer de constance. Hein? Donc, si vraiment cette application-là demeure pour le reste de la saison, l'ensemble des écuries sont averties, l'ensemble des écuries sont sur un pied d'égalité. C'est juste dommage parce que je pense que Fernando Alonso a conquis le cœur de plusieurs fans cette saison. C'est un fan favorite, on se le cachera pas. Puis, lorsque quelque chose lui arrive, on dirait que ça crée plus de remous, surtout lorsqu'une telle décision est prise environ 30 tours là, après l'événement. Puis la célébration a eu lieu.
Exact. On a parlé de la pénalité d'Alonso, on va parler de la course de l'Espagnol. On va se le dire, malgré la pénalité, c'est un très bon départ quand même, même s'il est nul and void. Julien?
Effectivement, je veux dire, très, très, très bon départ d'Alonso qui est parti un petit peu trop à gauche, hein, ce qui lui a mérité un premier 5 secondes de pénalité. Puis par la suite, il a quand même été en mesure là, de conserver sa première position pendant un certain temps. Mais à partir du moment où la Red Bull de Sergio Pérez a commencé à s'approcher, je pense que Fernando Alonso a rapidement constater que ça valait pas la peine d'être trop sur la défensive puis d'user sa batterie pour conserver sa première position là. D'emblée, je pense que Fernando Alonso sa menace réelle provenait des Mercedes, soit celle de George Russell en l'espèce. Donc, il a tenté beaucoup plus de conserver sa voiture là, pour s'assurer une place sur le podium qui, malheureusement pour lui, lui a été enlevée.
Ouais. Non, vraiment. Et en plus, je dois dire, outre ça aussi, Alonso a fait une belle gestion de course. Il pouvait rien face au rythme des deux Red Bull. Mais quand même, ça montre que l'Aston Martin, il y a une hype derrière cette voiture verte. Donc.
Effectivement. Puis, on va le constater tout au long de l'année ou de la saison, disons. Cette voiture-là va sûrement s'améliorer aussi. Ils vont pouvoir la développer pour tenter de l'optimiser au maximum de sa performance de cette saison. Puis, ça va être le fun, je crois, pour Alonso et Stroll de constater à quel point le potentiel de cette voiture avec les nouvelles infrastructures, avec les nouveaux ingénieurs qui sont arrivés lors des dernières années pour construire cette voiture-là. c'est très encourageant pour eux. Puis c'est certain que je pense qu'Alonso espérait justement, je pense que je vais un petit peu me répéter, Julien, mais espérait plus se battre avec les Mercedes que de rejoindre Sergio Perez. Il a rapidement constaté que c'était impossible. Donc, c'est pas une défaite pour autant pour eux. Ils se retrouvent troisième au championnat à raison de l'abandon de Lance Stroll à 6 points, je crois, de Mercedes. Ce serait à vérifier. Mais, ça reste un très bon résultat dans les circonstances avec un quasi-podium, une 4e place avec la pénalité. Mais le succès semble là, la voiture semble présente. Je vois pas quel est le problème autre que ils vont vouloir optimiser cette voiture-là au maximum durant la saison.
Effectivement, ouais. Donc, moi, je suis vraiment content aussi de voir Aston Martin confirmer, bon, pour l'instant, que la voiture est relativement bonne. Et aussi, Lance Stroll, malgré son abandon, faisait une très bonne course. Et que dire de son dépassement à l'extérieur du virage 13 sur Carlos Sainz au départ? C'était excellent!
À l'extérieur, effectivement, « round the outside », comme criait David Croft. c'est toujours magnifique de voir ça. C'était un dépassement qui était ambitieux. On voit pas, le tournant 13 n'est pas nécessairement celui qui est privilégié par les pilotes comme zone de dépassement. Donc, finalement, ça a été de toute beauté. Puis, malheureusement pour Lance Stroll, celui-ci a eu une problématique avec son véhicule qui semblait, mais corrigez-moi, toucher les freins.
Ouais, je sais pas, j'ai vu de la fumée arrière, je sais pas si c'est... Mais peut-être que ce sont les freins, je sais pas si c'est le moteur aussi, mais c'est vrai qu'on a vu...
Il tentait de refroidir les freins, effectivement, donc ouais. Peut-être ce serait une information qui a confirmé aussi durant le podcast, mais très, très belle course de Lance Stroll. Je pense qu'il prouve qu'avec une bonne voiture, il est capable de faire de grandes choses. Les chevaux avec lui, un très, très bon pilote.
Ouais, et en plus, avec des poignées endoloriantes, en plus, de faire ça sur le circuit urbain le plus rapide du championnat du monde de Formule 1 aussi, là, c'est vraiment bon. Donc, vraiment, chapeau à Lance Stroll pour l'ensemble de son week-end. En plus, il nous a fait presque rêver avec le meilleur premier secteur samedi, mais malheureusement, c'est un peu raté dans le dernier secteur. Mais quand même, ça prouve que Lance, pour l'instant, commence à bien s'adapter avec sa nouvelle voiture. Je dois dire quand même que la côté pour Mercedes, bon, on va quand même se satisfaire du podium de George Russell, mais quand même, l'écurie est encore à la traîne comparé à Aston Martin.
Oui, tout à fait. On constate vraiment là, que Aston Martin, avec son assemblage moteur Mercedes et châssis Red Bull, ça semble être une formule qui fonctionne bien par rapport à Mercedes, qui, elle, continue d'être critiquée par ses propres pilotes là, pour le choix du châssis. On sent peut-être que certains directeurs de développement chez Mercedes sont sur la sellette à l'heure actuelle, étant donné que la décision quant aux sidepods de la Mercedes est maintenue. J'imagine que l'ambiance présentement dans l'écurie n'est pas du tout la meilleure. Puis de voir qu'une écurie cliente est meilleure que la leur à l'heure actuelle, ça doit faire très mal là, au moral des troupes chez Mercedes.
Ouais. Marc-André?
Veux pas, je pense que malgré que la conception ne soit pas si bonne, malgré que un client soit devant eux, ça reste que présentement, ils ont l'avantage sur Ferrari, chose que je pense que personne ne voyait, du moins après les deux premiers Grands Prix. Donc, à suivre, est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison? J'en suis pas certain non plus, mais reste que pour le moment, Russell semble dans une bonne forme. Hamilton aussi, bien qu'il critique énormément sa voiture, ils disent qu'il ne se sent pas bien avec elle. ramène sa voiture quand même avec une cinquième position aujourd'hui, va chercher des points importants devant les Ferrari. Donc, malgré tout, ce sont, si jamais ça tient, des millions importants pour la saison prochaine qu'il pourrait aller acquérir. Donc, je pense que c'est certain qu'ils croyaient que leur progrès de 2022 allait se poursuivre peut-être avec un petit peu plus. Mais je pense que malgré tout, si ça continue comme ça, puis je ne dis pas que ça va se faire, mais s'ils terminent devant Ferrari, je pense que ce serait déjà une petite victoire pour eux. Là.
Ouais.
Mine de rien.
Et même, moi, j'ai été surpris par la décision d'Hamilton de commencer avec les pneus durs. Parce qu'il y avait lui et Logan Sargeant qui partaient derniers, qui sont partis avec ses pneus. J'ai trouvé ça audacieux. Puis il a même eu l'audace de dire que ses pneus étaient crap, alors qu'on sait que les pneus durs ne vont pas être aussi performants que les médiums et relativement à ce stade de la course, en début de course, on le savait. Donc, j'ai quand même trouvé ça un peu audacieux de la part d'Hamilton, non seulement de partir avec les durs. Bon, il a été sauvé par la voiture de... Il a été quand même aidé par la voiture de sécurité aussi pour être en médium, mais quand même partir en médium, c'était quand même osé.
Sur une gomme dure?
Dure, excusez-moi, oui.
Oui, ben effectivement, puis ça causait une espèce de dualité dans les interprétations du choix des pneus, hein, parce que pendant qu'Hamilton disait mes pneus durs, je pense avoir entendu « it sucks » à plus d'une reprise, on entendait Fernando Alonso qui, lui, de son côté, on lui posait la question sur les pneus qui étaient également en gomme dure, puis il disait « my tires are perfectly fine
». Ouais. Donc,
est-ce qu'il y a eu un problème, comment dire, de calibration des pneus, de pression des pneus chez Mercedes également, lorsque les pneus à gomme dure ont été choisis? Est-ce que c'est la température des pneus même qui, dans les couvertures chauffantes, a mal fonctionné? Je ne peux dire, mais on a vu vraiment une interprétation complètement différente entre les deux anciens rivaux chez McLaren.
Ouais, oh, McLaren, en plus, c'était pas fameux non plus, là, bon, dans les circonstances, mais quand même bien pour Hamilton de finir cinquième dans les circonstances. Mais je dois dire que la saison risque d'être longue pour, ben, surtout pour lui. Pour Mercedes, bon, le podium de Russell, c'est un cadeau en soi. Mais quand même c'est quand même du travail à faire pour Mercedes et pour Ferrari aussi. On n'en a pas encore parlé. Sainz sixième, Charles Leclerc septième. Bon, lui, il avait déjà sa pénalité, donc c'est quand même bien. Mais Ferrari est un peu, est-ce que Julien, Ferrari est un peu en train de reculer ou elle stagne?
C'est l'impression que j'ai. Ça a été une course qui a été au final complètement anonyme de la part de Ferrari, mis à part peut-être pour Charles Leclerc qui a commencé de la 12e position, qui a réussi à obtenir une 7e position à la fin. Mais les véhicules qui ont été dépassés par Charles Leclerc, là, on parle pour l'ensemble quoi de d'Alpine, possiblement d'AlphaTauri. On a très peu vu les Ferrari de façon générale lors de cette course-là, qui semblait avoir un rythme là, complètement différent des cinq premières voitures. Donc c'est dommage pour Ferrari qui pourtant en 2022 avait eu un début de saison que je qualifierais d'assez exceptionnel. On connaîtra la suite malheureusement pour eux, mais c'est ça, j'ai pas vu d'excellents résultats. Par ailleurs, encore une fois, des enjeux de stratégie, des erreurs stratégiques chez Ferrari qui ont fait mal à Charles Leclerc, puis ça a probablement contribué là, au fait qu'il a terminé simplement septième. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait vraiment obtenu une meilleure position que ça, considérant que Carlos Sainz, de son côté, même avec sa sixième position, ne réussissait pas à monter dans le peloton? Ça demeure spéculatif.
Ouais, puis en plus, ce qui était drôle aussi, ça aurait pu être un moment cocasse, mais vraiment, on a vu aussi Charles Leclerc dire à son ingénieur de piste, je pense que c'était, si je me souviens bien, là, lorsque Hamilton est sorti de la ligne des puits lors de la voiture de sécurité, puis il a dit genre « wake up si je me souviens bien ».
Il y avait ça, puis si je me rappelle bien, il avait également dit quelque chose, mais ben vous auriez dû me le dire avant ou oui. Quelque chose du genre. Là.
Oui, effectivement. Okay. Ouais, I mean, come on, oui. Donc, c'était... On a revu un peu le Ferrari un peu erratique dans sa prise de décision, mais soyons honnêtes, le fait que Carlos Sainz, ben, le dummy, en fait, qu'ils ont fait avec... avec Sainz pour faire rentrer Stroll au puits, c'était bon. Ça, il faut le dire.
Oui.
C'était bon. Au moins, on va leur donner ça. Donc, oui. Mais en général, c'était pas une bonne performance de la part de Ferrari dans les circonstances, 6e et 7e, loin du compte, derrière les Mercedes et encore derrière les Aston Martin. Là. Ça fait mal, mais je posais aussi la question, j'en parlais aussi dans le dernier épisode de podcast avec Jean-Sébastien. T'es, normalement, le vrai portrait, on pourrait l'avoir au Grand Prix d'Espagne, mais Espagne, c'est en début juin. Alors, il reste encore plein de circuits atypiques avant l'Espagne. Donc, on va commencer bientôt à se donner un point de repère pour voir où est le vrai rythme des écuries. Puis Ferrari, là, présentement, bon, on va donner un peu les bénéfices du doute. On va voir aussi rendu... je ne sais pas, Émilie Romagne, peut-être lors de la première course européenne de la saison, si on exclut Azerbaïdjan, là. Mais Ferrari, ça commence à m'inquiéter, là. Sinon, il y a une autre écurie qui m'inquiète, c'est McLaren. C'était bien parti. Avec Oscar Piastri qui s'est qualifié 9e, je crois, sur la grille. Mais enfin, il était sur la 5e grille, sur la 5e ligne, pardon. Et malheureusement, ben, un léger contact avec une Alpine a endommagé son aileron avant. Et pire que ça, comme ça a été dit en début d'épisode, ben, Lando Norris a été le malchanceux qui a roulé sous les débris de la monoplace de Piastri, et ils se sont retrouvés vraiment en fond de grille. Piastri a été capable de dépasser Logan Sargeant en fin de course, mais après deux courses, c'est pas mal compliqué pour McLaren, Marc-André.
C'est très compliqué. Puis après les essais hivernaux, on se demandait un peu où ils allaient être. On s'attendait à ce qu'ils soient très loin sur la grille, mais là, c'est des problèmes après des problèmes. Ils voyaient un peu la lumière au bout du tunnel, du moins à court terme, avec la position lors de la qualification de Oscar Piastri, après l'erreur de Norris en qualification également, en touchant le mur. On sentait que Piastri avait réussi à faire le travail puis à leur offrir une bonne position en course. Puis là, on allait vraiment pouvoir observer Piastri dans des bonnes dispositions, dans le trafic, voir un peu comment qui se comporte. Malheureusement, il a été très malchanceux avec un contact avec Gasly, si je me trompe pas. Donc, très malchanceux, très malheureux pour eux. Mais c'est des problèmes après des problèmes chez McLaren. J'ai l'impression qu'ils seront pas en mesure de se sortir de là. Auront-ils des points dans la saison? Combien ils vont réussir à en avoir? J'ai très hâte de voir, mais aujourd'hui, c'était catastrophe après catastrophe.
Ouais. Julien?
C'est vraiment malheureux pour cette écurie-là, puis à un point tel que déjà plusieurs se posent la question à savoir si Lando Norris doit demeurer chez McLaren. On s'entend que Lando Norris est carrément l'espoir de l'écurie britannique. J'entendais dans d'autres podcasts précédemment plusieurs se poser la question, mais quelle est la raison pour que Lando Norris demeure chez McLaren, mis à part le fait qu'il soit considéré comme pilote numéro un. Plusieurs avaient de la difficulté à trouver la réponse. McLaren nous habitue à des débuts de saison qui sont, somme toute, mauvais, mais à un point tel, aujourd'hui, moi, ça m'étonne là, de voir, comme je l'ai mentionné plus tôt, que McLaren, en ligne droite, a toutes les difficultés du monde à rouler à la même vitesse qu'une Williams. Selon moi, c'est pas acceptable. C'est une écurie qui a énormément de fans. C'est une écurie qui avait une belle progression, mais qui présentement là, ne semble pas bien aller du tout. Est-ce que les échecs de McLaren présentement sont pas un peu le résultat là, du départ d'Adria Seidel? C'est difficile à dire. Est-ce que Zak Brown est la bonne personne? Pas pour être team principal également, mais pour être CEO de McLaren. C'est une autre question qui se pose, mais visiblement, cette écurie-là va très mal en plus. Comme Marc-André l'a mentionné, là, ils sont malchanceux. Mais en F1, comme certains disent, you create your own luck. Mm-hmm. Puis ça semble pas marcher avec McLaren présentement. Donc on sent là, que tout comme certaines autres écuries, il doit avoir une ambiance relativement lourde au sein de McLaren.
Oui, effectivement. Ça... Donc, il y a vraiment, mais vraiment, du travail à faire avec McLaren parce qu'ils ne peuvent pas se contenter de se battre contre Williams pour le fond de peloton aussitôt dans la saison. Oui, ça va mal. Oui, l'année dernière, ça s'est replacé. En plus, bon, on était dans cette... pratiquement dans cette même situation l'année dernière, puis rendu au Grand Prix d'Émilie-Romagne, Lando Norris obtient un podium. Mais les résultats des essais pré-saison ne nous ont pas donné beaucoup d'espoir. Mais là, en course, ça a été un peu plus compliqué aussi. Vraiment, j'ai peur pour cette écurie. Très rapidement, Alpine quand même de bons points. J'ai trouvé, bon, les deux pilotes, on les a vus se battre aussi à la relance. Ocon 8e, Gasly 9e. Très bon résultat dans les circonstances.
Oui, tout à fait, un bon résultat. C'est sûr qu'à chaque fois que je vois Ocon et Gasly qui se battent, considérant leur passé quelque peu tumultueux, j'avais peur d'un certain contact entre les deux pilotes. Finalement, ça ne s'est pas produit. Visiblement, est-ce que c'est Otmar Szafnauer qui leur a bien parlé en début de saison sur la façon dont ils devaient agir sur piste? Je sais pas. Mais oui, 8e et 9e position pour Alpine. Je pense pas vraiment qu'ils pouvaient espérer obtenir mieux que ça. Ça a été une course correcte de leur côté, avec une 8e puis une 9e position, si je me rappelle bien, ça leur donne un total de 6 points. Donc, ça leur permet également de se démarquer par rapport aux autres écuries de midfield. Ça va être des points qui vont être très importants pour la fin, là, dans le classement des constructeurs pour obtenir quelques millions de dollars supplémentaires là, qui leur permettront de développer leur voiture pour 2024.
Effectivement. Marc-André?
Résultat très prometteur pour eux. On se demandait un peu où ils allaient être. Ils réussissent encore à obtenir de bons points. Ils vont pouvoir construire sur cette course-là, évidemment, pour les prochains. Comme Julien l'a dit, je pense que ça leur assurait beaucoup de gens de voir une première confrontation entre Gasly et Ocon. Ça s'est fait dans les règles, donc tant mieux pour tout le monde. À suivre si ça va être le cas toute la saison. Mais pour le moment, ça l'est. Donc, soyons encouragés par ça puis par l'attitude des deux pilotes. Mais non, franchement, je pense que cette voiture peut offrir une certaine performance, peut-être pas pour aller chercher un podium, mais pour aller chercher des points importants lorsque les autres vont faire des erreurs, lorsque les autres vont avoir des problèmes, des soucis de fiabilité. C'est peut-être cette voiture-là qui va ressortir du lot à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de profiter de chaque occasion pour aller chercher des points, surtout quand tu pensais te battre avec McLaren, puis finalement, ce n'est pas le cas. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, ça doit bien aller dans l'usine française.
Ouais, et aussi chez Haas, premier point de la saison grâce à Kevin Magnussen qui a réussi le dépassement de ce Grand Prix, magnifique sur Yuki Tsunoda au premier virage. Vraiment, Haas, beaucoup mieux qu'au Bahreïn il y a deux semaines. Alors, vraiment, chapeau à Magnussen pour sa 10e place. Et Nico Hülkenberg, 12e quand même. Même s'il a tapé le mur sur la ligne droite, Julien et moi, on se demandait comment est-ce possible. Mais quand même, 12e.
C'est Ericsson.
Ouais, Ericsson. C'est probablement Ericsson qui l'a touché. Alors, vraiment, je dois dire, quand même un bon résultat pour Haas, 10e et 12e. Donc, au moins, il y a une légère progression, mais espérons que ça continue comme ça pour Haas.
Et comme autre moment cocasse qu'on aurait pu mentionner, c'est le cri qu'a lâché Yuki Tsunoda lorsque Kevin Magnussen l'a dépassé. On voyait juste l'extrait radio qui était un « Ah! » C'était tout. Donc, il y a vraiment un dépassement tellement exceptionnel de la part de Kevin Magnussen qui nous habitue hein, quand même à des dépassements ambitieux. Mais de voir la réaction de Yuki Tsunoda là-dessus, c'était assez hilarant. Puis ça m'a fait bien rire. Donc, très belle 10e place pour Kevin Ben Magnussen, effectivement, qui obtient un point pour l'écurie Haas. Et on va voir également Nico Hülkenberg qui, effectivement, a commis une erreur, mais semble quand même s'habituer à la Haas. Et peut-être que ça fait plaisir là, à Gunther Steiner de voir un pilote qui ne va pas nécessairement endommager la voiture. Donc, potentiellement, que cette 12e place-là leur a plu quand même.
Ouais. C'est quand même bien donc d'avoir deux pilotes à court terme qui sont capables de ramener la voiture en un morceau. Marc-André, nous allons on a fait le tour globalement de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais on va aller en Formule 2 parce que toi tu as eu l'occasion Tu as pris le temps de regarder la course de Formule 2 cette fin de semaine, qui avait lieu aussi à Jeddah.
Ouais, j'ai eu la chance, je te dirais. Quand j'ai le temps, pour vrai, j'essaye de le faire. Puis on a eu encore une belle fin de semaine de course en F2. Ton petit chouchou, Abdou, qui ressort vainqueur hier, samedi. Donc, Aoumou Iwasa, qui partait quand même de la 6e place, est allé chercher la victoire au grand plaisir d'Abdou, probablement, devant Victor Martins et Yahem Daravoula dans sa MP Motorsport. Encore une fois, le jeune Français recru sort vraiment une grande performance en ayant été chercher la pole position, termine malheureusement deuxième, mais quand même un autre podium pour le champion de la F3 l'an dernier, qui continue d'impressionner plusieurs. Malheureusement, a eu un accident lors de la course principale, donc a dû abandonner. Il était tout seul, il a perdu le contrôle de sa voiture tout simplement et s'est ramassé dans le mur. Sinon, court portrait, disons, le Ralph Boschen continue sa bonne saison en terminant 4e devant Koch Maini, une autre recrue. Et Frédéric Vesti, 6e, lui a gagné la course principale aujourd'hui. Il partait à la 6e position aussi, donc c'était ça la solution à Jeddah, c'est de partir 6e en F2 pour finalement obtenir la victoire devant Jack Doohan, qui a obtenu la 2e position, et Yahim Daravoula également, qui obtient un autre podium. Ça a été des bonnes courses quand même. Vous cherchez peut-être pour Cher, qui... a causé un accident assez important hier.
Ouais.
En tout simplement enfonçant dans... J'ai un blanc de mémoire, c'était qui, mais c'était vraiment... Il a tenté de le dépasser tardivement, il n'a pas pu freiner, il est venu de la côté dans le mur. Donc malheureusement, il y a eu une pénalité de 2 secondes, donc il n'est même pas dans le portrait des 10 premiers en fin de semaine pour Pourchaire. Donc abandon évidemment samedi. Si on regarde peut-être rapidement le classement, Ralph Boschung toujours en tête devant Théo Pourchaire et Aoumou Iwasa. Donc, ont tous un point de différence. Donc, Et Wazir a une chance peut-être de se tirer vainqueur de cette saison, qui serait une belle histoire quand même. Celui qui avait eu une très bonne saison l'an dernier, une saison recrue, qui pourrait probablement, selon moi, l'amener en Formule 1 si jamais il obtient de bons résultats cette année et que Nyck de Vries ou Yuki Tsunoda ne fout pas le niveau de performance attendu par Red Bull. Moi, je serais pas surpris que ce pilote qui est dans l'entourage de Red Bull, dans le portrait junior de Red Bull, soit celui qu'on sort vainqueur de cette compétition. Donc, ça va être une autre dossier intéressant là, en Formule 1 à suivre. Est-ce que Yuki et Nyck de Vries vont réussir à avoir des bonnes performances pour empêcher Awumu et Waza de rentrer? Donc, je parlais de Vesti qui se retrouve à la quatrième position maintenant dans le classement avec 28 points. Donc, beaucoup de bonnes courses là en Formule 1. Et le grand perdant, c'est évidemment Victor Martins avec 17 points. Il est maintenant 10e. Il a perdu 5 positions en fin de semaine. Le vainqueur, c'est Vesti qui gagne 8 positions en fin de semaine.
Et c'est où la prochaine épreuve?
Prochaine épreuve, et mon Dieu, c'est où?
Down Under pour la première fois de l'histoire.
C'est vrai, c'est à Melbourne.
C'est à Melbourne. Donc,
les chanceux, c'est vrai.
Oui, donc écoute, c'est dans 2 semaines exactement. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir la chance. Ben, si jamais vous avez un samedi soir plate, ben, vous pourrez regarder la Formule 2 en direct en plein soir, ce qui est un avantage. Donc, par exemple, si les Canadiens jouent et qu'ils se font péter comme ils l'ont fait contre les Panthers, ben, vous pouvez switcher vers TSN ou F1 TV pour regarder la Formule 2 et même la Formule 3 qui sera présente aussi à Melbourne.
Si tu me permets, Abdou, chose intéressante aussi, j'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression que très peu de pilotes ont roulé à Melbourne. Donc, ça aussi, ça va être un élément imprévisible, intéressant à suivre. Quand des pilotes ne connaissent pas beaucoup les circuits, ça peut mener à un bon spectacle.
Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui...
C'est ça. Moi non plus, j'ai pas l'impression que... Ce serait une information vérifiée, puis on va vous revenir dans un prochain podcast.
Mais je pense que personne n'a roulé à Melbourne, donc ça va être nouveau pour pas mal tout le monde. Alors, Marc-André, un énorme merci pour ta chronique Formule 2. Et avant de terminer, j'aimerais ça faire un petit rant. J'ai déjà montré la vidéo à Julien. Ça s'est produit hier soir pendant les 12 heures de Sebring, la course d'endurance. Il y a un individu. Je vais essayer d'être... Il y a un individu qui a décidé d'arracher, et je dis pas toucher, mais arracher un morceau de la Porsche 963 accidentée après un accident vers la fin des 12 heures de Sebring. J'ai pas encore vu les faits saillants, mais c'était en pleine soirée. Il a décidé d'arracher ça. Faites jamais ça, parce que non seulement si vous êtes filmé, vous allez vous faire identifier et potentiellement être banni des courses, mais vous pourrez être poursuivi par l'équipe en question, qui pourrait peut-être vous dire de payer les frais de réparation. Et j'espère qu'ils vont le faire, parce que vous ne touchez jamais aux voitures. On vous dit déjà, ne touchez à rien dans les musées. C'est la même chose en course automobile, surtout avec l'argent que ça prend pour les frais pour construire la voiture, les frais d'inscription pour le championnat ou même la course en tant que telle, et surtout les frais de réparation. Déjà, le fait de l'arracher, ça va peut-être coûter... Déjà, ça doit coûter des milliers de dollars. Là, ça va être... Là, la facture va gonfler. Donc, si jamais vous... Si, tu sais, c'est correct, on veut voir une voiture de près, mais de grâce, ne touchez pas une voiture accidentée. Parce que, oui, peut-être des mois plus tard, là, si vous retournez sur le circuit, fine, il n'y a pas de problème. Tu sais, ça peut arriver, mais pas après, là. Ça devient du vandalisme rendu là. Donc voilà, c'était mes 2 scènes. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP dans le cadre de l'après-course. On se retrouve jeudi parce qu'on va parler de Drive to Survive, la saison 5. Donc, on va faire un retour sur cette cinquième saison. Donc, si vous, jamais vous avez vu la cinquième saison, laissez-le nous savoir. Sinon, ben, on va essayer de ne pas trop spoiler parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a consommé les 10 épisodes d'un trait. Donc, on va revenir sans vous dévoiler les punchs sur la saison 5 de Drive to Survive. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. N'hésitez pas à partager le contenu, à en parler à vos amis aussi qu'il y a des podcasts sur la Formule 1 français et au Québec aussi. Et évidemment, nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram, sans oublier aussi le groupe Facebook La Monoplace que Julien gère avec attention et avec brio aussi, avec évidemment l'aide des administrateurs. Et je retire ce que j'ai dit parce que Julien vient de me faire un pouce en l'air, mais non, je blague évidemment. Non, c'est toujours du travail, puis on vous invite aussi à toujours à partager votre... ce que vous aimez de la Formule 1 aussi, il n'y a pas de problème. Alors, tiens, Julien, merci infiniment d'avoir été là.
Merci à toi, Abdou, pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir. Puis, ça va être un plaisir également de participer à d'autres éditions et d'autres enregistrements du podcast que j'apprécie toujours.
Anytime, Julien. Et Marc-André, comme d'habitude aussi, merci de ta présence habituelle.
Merci à toi. C'est toujours un grand plaisir de participer à ce podcast de manière hebdomadaire.
Yes. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve jeudi pour le podcast spécial Drive to Survive avec une meilleure voix, j'espère. Et on se retrouve dans 2 semaines dans le cadre de l'émission d'après-course du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Salut tout le monde.
Salut à tous.